Secret de Normand. Secret de Normand. Un podcast by Tendance Ouest.
Et top, je suis née en Seine-Maritime, je suis actrice mais aussi romancière et photographe. Je suis connue du grand public au cinéma pour mon rôle dans Un éléphant, ça trompe énormément. Auteur du succès de Librairie Voile Noire, récit autobiographique sur la perte de mes parents, je partage l'affiche avec Bernard Giraudot pendant 25 ans dans la série télévisée Une famille formidable. Je viens de sortir un livre s'intitulant Respire, c'est de l'iode, je suis...
Annie Dupéret. En fait, c'est un pseudonyme d'un nom... Je ne sais pas s'il est spécialement normand, Annie Legras. Mon papa était photographe, ma maman aussi, mon grand-père était projectionniste de cinéma, donc je suis un peu née dans l'image comme ça, à Rouen. Malheureusement, mes parents sont morts quand j'étais très jeune, quand j'avais 8 ans et demi, et donc j'étais quand même à Rouen, je suis restée à Rouen, adoptée, disons, par une partie de la famille qui était ma tante surtout, une tante merveilleuse. Alors qui m'a poussée tout de suite, elle a senti que j'allais, comme dit Boris Cyrulnik, opérer une résilience par les arts. Donc elle m'a envoyée très vite, à 10 ans et demi, figurez-vous, que j'étais inscrite au cours du soir des Beaux-Arts de Rouen, qui était à l'époque dans ce magnifique, magnifique monument qui s'appelle Lettres Saint-Maclou. Mais alors effectivement, comme j'étais un petit peu faiblarde après la mort de mes parents, j'avais 9 ans et demi, on m'emmenait, alors je viens d'écrire un livre effectivement, on m'emmenait à Dieppe, le port le plus près, un petit aller-retour en train pour me faire respirer le bon air, voilà. Alors, seulement ma grand-mère n'arrivait pas à marcher sur les galets à Dieppe, la mer était généralement glacée, on avait peur que, vu la fragilité de la petite, en plus elle attrape froid, donc on restait sur le port, qui fait le gasoil, parce que à l'époque ça dégazait gentiment dans les ports, le poisson pourri avec les filets qui séchaient avec encore des écailles dessus, la gargote de la frite voisine, etc. Et tout ça faisait un bouquet de senteurs qui avait très très peu de choses de marin, mais ma grand-mère n'en débandait pas, plus ça sentait fort, plus c'était bon pour la santé, et tous les dimanches elle me disait « respire, c'est de l'iode ». Et puis voilà, Rouen, pour moi, ça a été la campagne normande pendant longtemps. Et puis, c'est vrai que j'ai après un peu fui la Normandie, si j'ose dire, parce que les grands-parents étaient morts, ma grand-mère était partie. Enfin, la Normandie étant un champ de mort pour moi, c'est vrai que j'avais pas forcément envie d'y revenir. Voilà, j'ai choisi une autre contrée pour refaire des racines.
Est-ce que vous y revenez de temps en temps aujourd'hui à cette Normandie ?
Je suis revenue souvent, il y a des années, faire des lectures à Cabourg, des lectures de Proust. Et j'y ai même créé, aux dernières lectures de Proust, Journée de Marcel Proust que j'ai fait au Grand Hôtel, un spectacle de café-concert, parce qu'on avait trouvé un magnifique texte de Proust qui s'appelait « Éloge de la mauvaise musique ». Donc, avec un camarade du Music Hall, nous avons créé un spectacle de café-concert. Et sur le café-concert, j'ai écrit des textes pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'était. À l'époque, le café-concert, on a un spectacle qui s'appelle « Viens, Poupoule ». Et puis voilà, donc il y a Cabourg, effectivement, où je suis retournée assez régulièrement. Et puis j'ai emmené un très cher ami qui est comme un frère, qui n'avait jamais vu la Normandie. Je l'ai emmené visiter, effectivement, Étretat, tout ça, là-haut, les petits villages. Et il était absolument ébahi, enchanté, quoi, voilà.
Vous dites que très tôt, vous êtes tourné vers l'art, vers une carrière artistique. Vous évoquez votre tante, mais est-ce que c'était aussi un de vos souhaits ? Pourquoi est-ce que vous êtes parti vers une carrière, donc d'abord à l'école de Rouen, et puis ensuite vous êtes lancé dans la comédie, vous êtes devenue comédienne sur Paris ?
Alors, comédienne, je ne dis pas que c'était par hasard, mais ça a été une chose que je n'ai absolument pas décidée du tout. C'était d'abord, c'était la peinture et le dessin. Vous savez, je crois que quand on opère, quand on a vécu un traumatisme comme ça, quoi, trouver ses parents morts à 8 ans et demi, on opère, comme dit Boris Cyrulnik, que je connais bien, une résilience quand on se sauve, souvent par l'art. Il dit d'ailleurs que souvent, les gens qui ont vécu des traumatismes d'enfance comme ça, soit se dirigent vers le social, on soigne les autres, soit on opère une résilience par l'art. Et il me semble que quand on se déploie comme ça vers l'artistique, on a des dons cousins. C'est-à-dire qu'on est doué pour la peinture, pour le dessin. On est aussi doué, en ce qui me concernait, première en français, j'écrivais, je lisais tout le temps. Et c'est un orientateur professionnel, alors que je venais d'être admise, quand même, je suis encore fière, deuxième sur concours à 14 ans et demi aux Beaux-Arts de Rouen. Enfin, fier. En même temps, il y a un orientateur professionnel, puisque ma tante était un peu inquiète de me faire quitter l'école comme ça, à cet âge-là, qui a dit, oui, mais alors attendez, il y a une chose qui m'embête. Elle lit tout le temps, elle écrit beaucoup, elle va perdre le contact avec les mots, en s'occupant des formes et des couleurs. Pourquoi vous ne l'inscrivez pas au conservatoire d'art dramatique pour qu'elle continue à étudier des textes ? Et de fait, je n'avais aucun investissement là-dessus, au départ. Et peut-être parce que j'avais aucun rêve d'être comédienne ni de faire ce métier, j'étais peut-être un peu plus à l'aise que les autres. C'est bien de ne pas trop avoir d'investissement sur quelque chose, parce qu'on le fait légèrement par plaisir. Et par contre, au conservatoire, j'ai découvert une chose que j'avais ignorée à l'école où j'étais un peu solitaire. Au Beaux-Arts, où on est seul devant sa toile et devant son papier, j'ai découvert la merveille de l'échange avec les autres, les partenaires. On se donne la réplique, on se monte une scène, on se dit, tiens, tu pourrais te mettre là. Non, vas-y. Et ça, je crois que c'est ça qui m'a embarqué dans ce métier, en fait.
Vous vous êtes lancé dans la littérature, dans l'écriture, être comédienne, être actrice, au théâtre, à la télévision, à succès partout. Est-ce que ça vient justement de cet enseignement que vous avez eu à cette école ?
J'ai eu un merveilleux professeur à Rouen, Monsieur Jean Chevrin. Il a fait, comme on dit, une pépinière d'acteurs. Valérie Lemercier, Karine Viard, Franck Dubosc, Jean-Michel Dupuis à l'époque, si je ne sais plus, Patrick Chenet avec moi. Nous ne sommes des gens qui ne nous interdisent rien. On a envie de mettre en scène, on met en scène, on a envie d'écrire des romans, on écrit des romans, on a envie de chanter, on chante. Et en quoi, je crois que c'est Jean Chevrin qui nous a appris cette ouverture comme ça, en disant « déployez-vous dans tous les sens possibles, tout ce que vous voulez ». Et peut-être le fait d'accepter que les choses viennent comme ça, de ne pas avoir une projection idéale de soi dans l'avenir. C'est-à-dire de pas rêver d'être la grande comédienne ou d'atteindre le grand rôle. À chaque fois qu'on me dit, alors quel est le rôle que vous n'avez pas joué, que vous auriez rêvé de jouer ? Eh ben aucun.
Ça vous laisse aussi une immense liberté créatrice, de ne s'enfermer aucunement et non plus de ne surtout pas courir après les projets ou après une gloire comme vous évoquez.
Voilà, c'est vrai. Ne pas rêver à la chose idéale qu'on aimerait avoir, bah ça évite les déceptions. Ça évite les jalousies si c'est un autre qui l'a. Ça évite pas mal de choses. C'est assez pratique.
Vous dites ça évite les déceptions. Est-ce que vous avez quand même un regret dans votre vie ? Quelque chose que vous auriez fait mieux ou que vous auriez fait ou que vous n'auriez pas fait ?
Alors, il y a... Non, il n'y a pas de regret. J'ai beau chercher. Hein, je cherche ardemment parce que j'aimerais bien vous citer un regret quand même. J'ai fait quand même pas mal de choses. Je vois pas de regrets, non. Mais j'ai toujours des envies. J'ai toujours notamment envie de pousser plus loin ce spectacle Viens Poupoule, de chanter, qui est un bonheur, mais qui a peut-être un tel bonheur pour tout le monde. Peut-être avec une possibilité de reprise l'année prochaine et de tourner par la suite. J'aimerais beaucoup, parce que c'est un spectacle qui nous rend heureux et qui rend les gens heureux. Alors.
Écoutez. Ressentez. Découvrez. C'est le podcast Secrets de Normand avec Alix Cagnard.
Sur votre carrière, qui a été quand même très foisonnante, ça va être dur. Un souvenir, le meilleur souvenir, ou plusieurs si vous en avez plusieurs. Mais qu'est-ce qui vous revient là ?
Au Débeauté, ce qui me revient là, c'est pas forcément parce que c'était avec ma fille, mais ça en fait partie. Je savais qu'elle avait pas spécialement envie de jouer avec sa mère parce qu'elle ne cherchait qu'une chose et je la comprends, c'est à se démarquer de ses parents. Parce qu'elle me disait, maman, tu peux pas savoir ce que c'est fatigant que les gens vous regardent en se disant, mais qu'est-ce qu'elle a de son père et qu'est-ce qu'elle a de sa mère? C'est épouvantable. Donc je restais très à distance. Et puis il est arrivé qu'un jour on nous a proposé de jouer Colombe de Jean Anouilh ensemble, et je lui ai dit, écoute, c'est le moment ou jamais, voilà, débarrassons-nous de ce truc. Et ça a été mais un bonheur, mais à vrai dire notre affection mère-fille est passée complètement inaperçue dans une équipe de bisounours amicaux formidables. C'était vraiment une équipe d'une telle chaleur. Colombe d'Anouilh, c'était merveilleux.
Qu'est-ce qui vous transcende dans la vie ? Qu'est-ce qui, le matin, vous fait sortir du lit ? Ou qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre ?
Alors, c'est très dur en ce moment. Franchement, c'est très dur. Faut penser à chaque fois que quelle chance j'ai d'avoir des beaux enfants magnifiques avec lesquels je m'entends bien, qui réussissent dans leur partie. des beaux fils et une belle fille charmante, des beaux enfants, des beaux... Faut se dire toutes les chances qu'on a. Moi, de travailler encore à mon âge, parce que je connais bien des copines qui m'envient quand même d'avoir encore des propositions et de faire des choses. Faut bien penser tout ça pour contrer la vague de cafards qui vous vient obligatoirement quand on pense à la multiplication des dictateurs, à l'incurie de ces gens en col blanc qui veulent nous diriger et qui méprisent complètement les citoyens ordinaires qui gagnent peu et qu'on traite mais vraiment mal, quoi. Moi, je suis horrifiée, voilà. Donc, je me réveille, en gros, je me réveille horrifiée. et puis, voilà, je caresse un de mes chats, je me dis, bon, là, déjà, c'est quelque chose de doux. Et puis après, je pense à toutes les chances que j'ai par rapport... à d'autres gens pour éviter la colère, éviter le désespoir et tout ça. Voilà. Mais il y a une petite bagarre, hein. Il y a une petite bagarre à l'aube.
Et sur le sujet de la transcendance, toujours, est-ce que vous croyez en Dieu, en un Dieu ou à une force supérieure ?
Il doit y avoir quelque chose, certainement. Je crois au mystère, c'est-à-dire nul ne sait. Je crois que si un Dieu ou une entité supérieure existe, elle est absolument inappréhendable par l'esprit humain, et nul ne sait. Donc c'est tout ça pour vous dire que les religions, ce que j'en pense, hein, elles ont toutes été écrites par des hommes, au temps où les femmes valaient moins qu'un âne. Donc tout ce cirque de l'impureté, de la tâche originelle, de tout ça, et autant vous dire que voilà, je ne dis pas ce que j'en pense, mais vraiment c'est épouvantable, épouvantable. Par contre, le mystère, oui, il y a un mystère, et moi j'ai eu tellement de preuves d'intervention, de hasard, de choses qui sont tombées dans ma vie comme ça, qui n'étaient absolument pas possiblement naturelles.
Est-ce que vous croyez à un au-delà, à quelque chose après la mort ?
Il y a indubitablement quelque chose. Alors j'ai un ami qui a eu de telles preuves que ça existait, parce qu'il a eu des messages. Par l'intermédiaire d'un médium, il a eu un message irréfutable. Quand on en a parlé après, il m'a dit « Je pense que si on est séparé du monde des morts, des esprits, c'est pas pour rien. Faut pas taper dessus. » Lui, il a pas été cherché. Il dit « Mais de temps en temps, ça se retrouve et il y en a un qui vous fait un signe. » Ou des hasards, qui sont soi-disant des hasards comme ça. Quelquefois des avertissements. J'ai eu des avertissements. J'ai su que c'était des avertissements quand j'ai pas écouté. Mais il faut pas taper sur la porte. Ouais, je pense qu'il a raison. Il faut accueillir les choses quand elles arrivent, quand tout à coup on a la chance d'avoir le truc qui s'en trouve et qu'on vous fait un cadeau, sans chercher forcément à forcer la porte.
Et est-ce que vous avez peur de la mort ?
Bah, comme tout le monde. Mais j'ai beaucoup plus peur, d'ailleurs, hardiment je finis mon livre là-dessus, j'ai beaucoup plus peur, en fait, de la dépendance que de la mort elle-même. Voilà. Je trouve que quand on a été aussi indépendante et libre que je l'étais, que je le suis comme j'ai été élevée, l'idée de pouvoir tout à coup être prisonnier de son corps et prisonnier entre quatre murs à attendre un petit repas, à attendre, me semble la chose, moi, c'est le cauchemar sur Terre, quoi.
Et plus concrètement, est-ce que vous avez des combats dans votre vie ? On sait que vous avez été, que vous avez suivi plusieurs associations. Est-ce qu'il y a des causes qui vous tiennent à cœur ? Ou, comme je disais, des combats que vous menez ?
Des combats, c'est pas vraiment des combats. J'aime pas l'hypocrisie. D'ailleurs, je l'ai payé un peu cher, hein, quand même, parce que j'ai essayé, par exemple, de tempérer un peu les accusations de Madame Godrèche envers son ancien compagnon, quand même 6 ans de vie commune, tout ça. Et puis dire après, c'est tout la faute de l'autre, ça me choquait un peu. Je l'ai payé quand même très cher, puisqu'on m'a viré des SOS Village d'enfants en 5 minutes. Que j'allais faire des concerts, des lectures avec des musiciennes qu'on a menacées d'annulation de concert, c'était moi la lectrice. C'est violent, hein, ce qui se passe là. Donc dire ce qu'on pense ou essayer même de tempérer les choses, quelquefois, ça coûte très cher. Hein. C'est étonnant, c'est affreux cette époque. Par exemple, alors voilà, je vais prendre un risque, voilà, par exemple. J'ai fait une émission de télévision dernièrement, avec Monsieur Nicolas Bedos, qui a fait 1 an de prison quand même pour une main un peu haut sur la cuisse et un bisou dans le cou, c'est cher payé quand même, même si pas, il dit lui-même qu'il était un sale connard quand il était sous. Mais enfin, il a fait sa peine, Il a fait, me semble-t-il, un énorme mea culpa. J'ai vu la dernière série qu'il a fait, qui s'appelle Alphonse, qui est formidable. Et il a fait un film avant qui avait beaucoup de talent. Je dis, ce monsieur, quoi qu'il ait fait, maintenant qu'il a fait sa peine et qu'il a fait un mea culpa, comme il a beaucoup de talent, je souhaite ardemment qu'il reprenne son métier. Et le silence autour de moi, de tous les autres, le condamnait à mort artistique. C'est-à-dire qu'il serait plombier zingueur et il pourrait reprendre son métier. Mais artiste, vous êtes soupçonné de quelque chose où vous avez été condamné pour attaque sur une jeune femme ou ceci, cela, etc. Vous avez fait votre peine, vous êtes condamné à vie. Je trouve ça absolument monstrueux.
Vous êtes pour un droit à la rédemption et une seconde chance au-delà de la mort sociale qu'on peut par exemple affubler à Nicolas Bedos ?
Évidemment. Évidemment, pas une mort artistique, voilà. Parce que quand même, un artiste, son expression, mettre en scène, écrire des choses et tout, c'est quand même une de ses raisons de vivre qui se va faire investuer. C'est terrible, quoi. C'est une question délicate. Et en tout cas, elle se pose pour les artistes. Cette condamnation à mort artistique, je trouve ça terrible, en plus.
Secret de Normand, le podcast intimiste by Tendance Ouest.
On va ouvrir une petite page sur les personnalités. Est-ce qu'il y a une personnalité, par exemple, vivante ou qui est décédée, qui vous a beaucoup inspiré dans votre carrière ou aujourd'hui, que vous avez beaucoup admiré ?
Il y en a deux qui ont été importantes. C'est les deux directeurs créateurs de théâtre que j'ai connus au début de ma carrière, qui vraiment ont été des grands révélateurs. Il y en a un qui est très inconnu et c'est tout à fait injuste. Jean Mercure a été le créateur du Théâtre de la Ville. Et puis, il y a Jean-Louis Barrault. J'ai été 10-12 ans chez Jean-Louis Barrault, pas régulièrement, mais il m'a offert des rôles absolument magnifiques. J'ai inauguré les trois derniers lieux de Jean-Louis Barrault, y compris le rond-point. J'ai fait l'inauguration du rond-point, avec la charpente qu'on avait remontée de la gare d'Orsay. Et Barrault, pour moi, c'était un père de théâtre, quoi, absolument. Et d'ailleurs, c'était tellement un père qu'il m'avait choisi comme fille, élue. Il me disait, c'est ma fille de théâtre. D'ailleurs, Madeleine Renaud, son épouse magnifique, qui était terriblement jalouse de toutes les autres actrices, comme ça et tout, n'était aucunement jalouse de moi. Elle avait compris que nous n'étions pas sur le même registre. J'étais sa fille de théâtre, choisie. Et donc là, Madeleine, j'étais épargnée par sa jalousie.
Et est-ce qu'il y a une personnalité dans l'histoire, ou alors même encore aujourd'hui, que vous rêveriez de rencontrer, ou alors un personnage dont vous auriez rêvé de croiser la route ?
Alors, il y a Colette, mais je crois que j'aurais préféré rencontrer George Sand. Et un autre homme dont je suis absolument fan absolu, c'est Frédéric Dard. Je suis une fan des San Antonio, des romans de Frédéric Dard, de cet homme qui est un génie du mot, un génie de l'invention, un fou de l'écriture. Dans un journal qui lui était consacré, j'avais écrit un article, toujours un San Antonio dans la valise.
Quelques questions un petit peu plus courtes. Quel est votre livre préféré ? Un livre que vous relisez ou que vous ne vous lasseriez pas de relire ? Ça peut être les vôtres.
Non, c'est un auteur, à part Frédéric Dard et Colette... J'adore l'écriture de Annie Ernaux.
Qui est normande aussi.
Normande aussi, et qui a vécu dans le même patelin que mes grands-parents, qui tenaient un bistrot aussi à Yvetot, en même temps que ses parents. Ils ont possiblement pu se connaître. Et Annie, il y a une histoire avec elle. Quelque part, on a fait un interview croisé un jour, parce que ma tante qui m'a élevée, qui a été merveilleuse et m'a poussée vers les arts, j'ai été nettement la revanche de ma tante. Je lui ai écrit, quand elle a eu son prix Nobel, je lui ai écrit « Tous ceux d'Yvetot doivent être fiers de toi, y compris ma tante, qui aurait tellement aimé faire ce que tu as fait. » Elle m'a répondu « Tu as écrit ce qui pouvait me toucher le plus, effectivement. »
Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué, votre film préféré ?
Au Déboté, comme ça, il y en a un qui me vient, parce que je le trouvais très bien écrit et très bien. Et sur cette question de fin de vie, justement, d'une poésie extraordinaire, qui s'appelait « Les invasions barbares ». Ça vaut le coup de le regarder.
Est-ce que vous avez des passions, en dehors de celles qu'on a déjà pu évoquer, qu'on connaît moins chez vous ?
Le jardin a été une passion, que je paye cher d'ailleurs, parce que maintenant, il faut l'entretenir. J'ai un chapitre là-dessus, avec une phrase qui m'avait marquée, et je ne savais pas encore qu'elle allait me concerner à ce point. J'ai une des phrases de mon livre, une des 32 phrases, qui est une phrase de la magnifique comédienne Elvie Schoeyer. À la fin de sa vie, elle était photographiée devant un feu de bois chez des amis. Et là, la journaliste s'étonnait en disant « Ah, vous n'avez pas de maison de campagne ?»« Oh, j'ai eu tout ça, vous savez, j'ai eu des maisons à la campagne, j'ai eu des maisons à la mer. Mais vous savez, on croit posséder les choses et un jour, on s'aperçoit que ce sont les choses qui vous possèdent. » Cette phrase m'avait complètement marquée et je ne savais pas pourquoi. Et 30 ans après, ayant fait un jardin de 4 hectares, que je dois entretenir à grands frais, cette phrase a pris une résonance, mais douloureuse presque. Et je termine ce texte en disant « Méfiez-vous de vos passions, vous pourriez un jour en devenir l'otage. » Je suis l'otage de mon jardin. Sinon, non, ce sont des goûts que je fais, quoi. Bon, par exemple, je fais tous mes vêtements d'été. J'ai une petite fille de couturière. Je prends des pareos, généralement, de qualité, de pareos. Et puis, je coupe les bords pour en faire des bordures. J'ai des tas d'ensembles. Alors, pendant le confinement, je vous raconte pas la collection d'été que je me suis fabriquée.
Quel est votre juron préféré quand vous êtes très en colère, le premier qui sort?
Connard. D'ailleurs, il y a une jolie histoire à ce sujet. C'était une de mes accompagnantes en tournée qui avait un fils de 7 ans, très amoureux de la langue française. Elle m'avait raconté ça, elle m'avait dit un jour, il était revenu en disant « Tu sais maman, la langue française est vraiment étrange. Une dame connard, ça devrait être une connarde. Eh ben non, dis donc, c'est une connasse. » Je trouve cette histoire délicieuse. Donc, de temps en temps, je reprends étymologiquement la chose. Quand je pense, par exemple, à certaines femmes qui nous emmerdent dans Paris, « Connarde.
» Et est-ce que vous avez une gaffe qui vous revient en mémoire? Quelque chose où vous vous dites « Ah là, j'aurais mieux fait de me taire » ou « J'aurais mieux fait de rien faire » ?
Sans arrêt, j'en fais. Sans arrêt. J'oublie terriblement le nom des gens et le plus souvent les visages et le nom qui s'accorde au visage quand je reconnais le visage. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je crois que j'ai un réel problème là-dessus. Là, par exemple, je viens de faire une lecture à Bruxelles avec deux personnes que je connais bien, qui organisent des spectacles comme ça, des choses comme ça, eh bien, j'ai absolument interverti les noms. J'ai toujours cru que l'un s'appelait du nom de l'autre, et je n'arrive toujours pas à démêler, à remettre les choses en place. C'est épouvantable. Souvent, je connais très bien quelqu'un, je lui serre la main, je dis de question que je le présente à la personne d'à côté, parce que je ne sais absolument plus son nom. Ou alors, je me rappelle de son visage, mais où l'ai-je connu? C'est pas pourtant une indifférence, parce que j'aime bien les gens, mais j'ai un truc là-dessus. Ouais. Et ça peut faire des bonnes gaffes.
Pour finir, je vais vous laisser le mot de la fin, mais un seul mot. Et pourquoi ce mot?
Amitié, voilà, c'est un très beau mot qu'on devrait pratiquer envers les gens, les choses, voilà, se conduire amicalement.
Merci beaucoup, en tout cas Annie Dupéré, pour tout cet entretien. Un grand merci à vous.
Mais de rien, merci à vous. Vive la Normandie!
Écoutez, ressentez, découvrez. C'est le podcast Secret de Normand avec Alix Cagnard.